Radio Okapi.
Le journal, présenté par Billy Van Lutumba.
Nous commençons ce journal avec un contraste. Ce contraste concerne le centre de santé de Bogoro dans la province de l'Ituri. Belle bâtisse, on le lui reconnaît, mais en matière d'équipement, c'est la galère. Rien d'efficace pouvant prendre en charge les malades qui s'y rendent. Il est aussi question dans cette série d'actualités que nous vous proposons ce soir de cette analyse du représentant légal de l'église de Réveil au Congo, le président de la plateforme des confessions religieuses, et Jibaya Mapia sur la prolifération des églises en RDC. C'est en marge des états généraux de la justice qui se tiennent ici à Kinshasa. Valérie Madianga, coordonnateur du centre de recherche en finances publiques et développement local CREFDEL, invité de ce journal, dénonce le financement de 3 millions de dollars pour la construction des routes inexistantes à Kinshasa. Dans quelques instants, vous avez droit aux autres contours de l'actualité du pays. Le tout, c'est sur Radio Okapi, votre source d'information de prédilection. Bienvenue, excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Aimable auditeur, bonsoir. Le centre de santé de Bogoro dans la province de l'Ituri, situé à 25 km de Bunia, ne dispose pas de matériel nécessaire et d'autres moyens logistiques pour une meilleure prise en charge des patients. Et pourtant, elle a été récemment inaugurée par les autorités de la province dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires financé par le gouvernement central. Les responsables de cette structure sanitaire sollicitent l'appui du gouvernement et ses partenaires. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
C'est un bâtiment flamboyant qui dispose d'une maternité, d'un bloc opératoire, d'une salle d'accouchement, d'un laboratoire ainsi que de salles d'internement de malades. Mais les centres de santé ne disposent pas de matériel de laboratoire ni d'équipement nécessaire pour diriger des interventions chirurgicales. Des malades sont obligés parfois de partager un même matelas ramené de la maison qu'ils placent à même le sol. Difficile d'assister des femmes enceintes pour cause. Cette formation médicale ne dispose pas d'appareils d'échographie. David Mugisa, l'infirmier titulaire, avoue que la plupart des malades préfèrent se faire soigner dans d'autres structures plus équipées, d'où son appel au gouvernement.
Si vous voyez les bâtiments, en tout cas, on l'a bien construit. Si vous entrez maintenant à l'intérieur, nous n'avons pas de matériel. Actuellement, nous recevons des malades qui viennent hors aire de santé. Alors, s'ils trouvent qu'ils n'ont pas de matériel, en tout cas, ce n'est pas bon. Comme maintenant, on a une structure de référence, centre de santé de référence, je demande au gouvernement de nous donner du matériel, que les malades viennent se soigner, en disant que voilà, là, il y a quand même une bonne prise en charge.
Signalez que cette structure sanitaire reçoit en moyenne plus de 200 malades par mois et dessert une population estimée à 5000 habitants. De retour de Bogoro, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Cap.
Ici, c'est la salle de soins.
C'est la salle de soins. Oui.
Les travaux du PEDEL 545 territoire évoluent normalement dans la province du Tanganyika. Propos du représentant résident du PNUD en RDC. C'était hier à Kalemie au cours de la conférence de presse qu'il a animée conjointement avec le vice-premier ministre du plan. Les deux intervenants ont fait un état des lieux du PEDEL 545 territoire dans la province du Tanganyika. Damien Mama, représentant résident du PNUD, note tout de même quelques difficultés liées au mauvais état des routes. Il est au micro de Paul Monanga.
Dans toute la province, on a déjà 5 écoles qui sont utilisées par les enfants et nous avons 24 autres infrastructures qui sont en finition et le bâtiment administratif de Kabimba, les deux écoles ainsi que le centre de santé de Mitoa font partie. Donc il y a du travail qui est en train d'être fait. Dans la province du Tanganyika, nous avions prévu 91 infrastructures totales et à ce jour, il y a encore 14 pour lesquelles on n'avait pas encore signé le contrat à cause des questions de décaissement qui viennent d'être réglées. Donc en fait, on doit pouvoir signer les contrats pour les 14 pour que dans toutes les localités où c'est prévu, on puisse avoir effectivement les travaux démarrés et finis. Pour ce qui concerne les territoires de Manono, Kongolo et Kabalo en particulier, les travaux sont en cours, mais pas au même rythme que les autres territoires. Et cela s'explique, vous savez, plus les territoires ont des problèmes d'accessibilité, plus les travaux sont lents. Vous savez, par exemple, que Manono a été coupé de l'ensemble de la province pendant au moins 5 mois, récemment. On ne pouvait pas y aller.
Nous parlons aussi de ce coup de projecteur sur les actions des 100 premiers jours du gouverneur Grassen Kwanga Bilolo du Congo central. Un bilan qu'il juge lui-même positif compte tenu des réalisations sur l'ensemble de la province. À l'issue d'une conférence de presse animée pour la circonstance, son conseiller en communication révèle dans son adresse que l'absence criante de l'autorité de l'État dans certaines entités fait partie des contraintes auxquelles la province fait face pour relever les défis d'ordre sécuritaire. Selon Martin Solo, cette situation est en train d'être améliorée à travers les
des activités stratégiques que le gouverneur de province a mises en place depuis son avènement. Nana Plurich Mambo, reportage.
Sur les plans sécuritaires, Martin Solo, conseiller en communication du gouverneur des provinces, a souligné que l'arrivée du gouverneur Grace Bilolo a apporté une nette stabilité dans les deux villes ainsi que dans les grandes agglomérations de la province. Quelques cas isolés d'insécurité s'observent plus dans les ex-cités comme Kimpese, Lukala, Kinsamvuete et Sioni à Lukula. Pour s'assurer que tout se passe bien, le chef du gouvernement provincial a mis en place plusieurs stratégies. Martin Solo.
Le chef du gouvernement provincial tient régulièrement des conseils provinciaux de sécurité. Les appuis financiers et matériels sont mis à la disposition des services de sécurité pour renforcer leurs capacités. Le gouvernement provincial procède à l'organisation régulière des audiences foraines dites pédagogiques en vue de juger et éventuellement condamner tous les auteurs de crimes.
Signalons que plusieurs actions de grande envergure ont été menées durant les 100 premiers jours du gouverneur Grace Nkwanga Bilolo. C'est notamment la construction de 12 240 mètres carrés de routes en béton armé à travers la province et la dotation de 10 motos dans les territoires de Songololo pour renforcer la sécurité, précise son conseiller en communication. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Poursuite ce lundi des travaux des états généraux de la justice au centre financier de Kinshasa. La liberté de religion face à la prolifération des églises était l'une des thématiques au centre du débat lors de ces assises. Selon les panélistes et responsables de quelques communautés religieuses, le chômage est l'une des causes qui pousse certaines personnes à créer des églises pour profiter des offrandes des fidèles. Une situation qui occasionne la cacophonie constatée dans ce secteur. Comme remède, le représentant légal de l'église de Réveil du Congo et président de la plateforme des confessions religieuse archevêque Jibayamapia Evariste propose au gouvernement de multiplier les efforts dans le domaine de la création d'emplois en vue de contenir cette prolifération. Grâce à Mzati était dans la salle pour Radio Okapi, voici son reportage.
Au ministère de la Justice de tenir compte des différents textes qui existent déjà, respecter et faire respecter ces actes légaux relatifs à l'exercice des cultes, octroyer des différents privilèges à toutes les confessions religieuses. J'insiste sur ce point, en lieu et place d'avoir un traitement sélectif favorisant une ou deux confessions au détriment des autres.
L'archevêque Jibayamapia propose également au gouvernement de doter les confessions religieuses des outils juridiques de régulation et des sanctions en cas de non-respect des règles et de limiter le nombre d'églises par avenue, mais aussi de faire un contrôle permanent des églises en collaboration avec les confessions religieuses. Dans la foulée, le révérend Eric Senga, porte-parole de l'église du Christ au Congo, s'interroge, je le cite, « C'est la justice qui est malade ou bien c'est le système ?» Fin de citation. Il propose des réformes à tous les niveaux. Pour sa part, Monseigneur Donatien Chole de l'église catholique met l'accent sur les défis dans l'exercice du culte en RDC en préconisant la formation des hommes des dieux. Dans les buts, dit-il, d'éviter qu'on se retrouve avec des pasteurs qu'il appelle des charlatans dans la société.
Pour sa part, la synergie des organisations syndicales et sociales a déposé ce lundi son mémorandum au bureau des états généraux de la justice qui se tient à Kinshasa. Dans ce document de quelques pages, cette organisation syndicale a proposé plusieurs réformes dont l'instauration d'une justice distributive à travers une politique des rémunérations. Plus de détails avec Blaise Dongala Mayanda.
La synergie des organisations syndicales et sociales est d'avis que le pays a besoin d'une justice distributive à travers une politique salariale appropriée pour le bien-être de tous les travailleurs congolais. Cette organisation citoyenne a également recommandé aux participants aux assises des états généraux de la justice d'incorporer la justice traditionnelle en vue d'une complémentarité avec la justice formelle. Selon son porte-parole, la justice traditionnelle va sans doute aider à renforcer la justice formelle qui, selon lui, a fait preuve de ses limites dans plusieurs dossiers de détournement à travers le pays.
Il y a donc des dossiers comme 100 jours, le dossier francophonie, La justice n'a pas été en mesure de retrouver les auteurs de tous ces forfaits et n'a pas été capable de sanctionner ni même de récupérer les biens détournés. Il faut donc une complémentarité avec les outils judiciaires traditionnels qui sont des outils plus efficaces et plus accessibles qui permettront que les auteurs de détournement puissent réparer en restituant les biens détournés pour les biens de la communauté.
Cette organisation de la société civile a en outre souhaité que les recommandations qui sortiront des états généraux de la justice puissent mettre fin à l'impunité et au contrôle de la justice par les pouvoirs exécutifs, aliénant son indépendance.
Droit d'auteur et protection personnelle de l'artiste congolais, pour quelle réforme? C'était une autre thématique débattue ce lundi aux états généraux de la justice à Kinshasa. Le principal intervenant à ce sujet, le pasteur Moïse Mbié, responsable de l'église cité Bethel et musicien gospel, a demandé au gouvernement de veiller sur la gestion active de la société congolaise des droits d'auteur et des droits des droits d'auteur. Sokoda, ceci permettra, selon lui, d'installer un climat de paix autour des gestionnaires, connaître les besoins réels des artistes, mais aussi connaître les besoins de cette société. Moïse Mbié insiste sur le fait que les artistes doivent vivre de leur art, d'où son appel aussi aux autorités d'honorer les artistes de toutes les catégories de leur vivant. Nous parlons à présent de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Dans le Nord Kivu, une accalmie s'installe depuis le début d'après-midi ce lundi dans l'agglomération de Bukombo. C'est au sud de la chefferie de Bouito, territoire de Rutshuru. C'est après des violents combats qui ont opposé dans la zone depuis 5h30 les rebelles du M23 aux combattants du collectif des mouvements pour le changement CMC de Dominique. Selon certains notables contactés dans la zone, l'intensité des combats baisse depuis 12h30. Les rebelles du M23 qui ont attaqué les Wazalendo dans la zone de se serrer de nouveau de retirer des villages à Kazuba et Kavumu près du centre de Bukombo qui reste toujours sous occupation des CMC Nyatura. Les habitants qui fuyaient vers l'hôpital de Birambizo vers la brousse regagnent à nouveau le village. Et dans le territoire de Beni, la société civile de la cité lacustre de Kiavinyonge, située à une centaine de kilomètres de la ville de Beni, déplore les attaques répétées des éléphants contre les populations riveraines du parc national de Virunga. Selon Delphin Malekani, président de la société civile locale, le dernier incident s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche lorsqu'un septuagénaire a été tué par un éléphant venant du parc. Il appelle l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN à prendre des mesures pour prévenir la divagation des pachydermes. Delphin Malekani s'est exprimé au téléphone de André Kitenge.
Cette mort a été causée par un éléphant qui l'a agressé dans son champ et c'est une chose vraiment qui nous a mis dans une angoisse. Et ce n'est pas le cas, il y a aussi 4 personnes qui sont internées au centre de santé de référence de Kiavinyonge. Aussi, c'est la même situation qui a causé à ce que ces gens soient internés, mais parmi les victimes, et les cultures aussi sont touchées aussi par la destruction de ces éléphants qui sont venus en masse vraiment pour venir chercher quoi manger. C'est pourquoi nous demandons à ce que l'ICCN puisse renforcer ses mesures de lutte contre cette divagation des animaux et voir de quelle manière aussi faire le refoulement de ces animaux et voir aussi de quelle manière être assemblé afin de parler seulement, voir quel mécanisme on peut prendre afin que les animaux et les humains, chacun pourrait rester vraiment dans ce qui les concerne. Pour le cas de la population, nous avons dit à la population d'être vigilante puisque ce cas venait de se passer à moins de 2 semaines où voilà 4 cas.
Et dans la province du Maniema, les enseignants du territoire de Kibombo réclament leur salaire du mois d'octobre. Le permanent territorial du CIECO Kibombo parle de la perte de leur salaire étant donné que la banque payeuse pour leur confirme que les 2 mois sont décaissés. À leur grande surprise, ils reçoivent l'argent du mois de septembre et celui du mois d'octobre n'a pas de trace pendant que leurs collègues des autres territoires bénéficient de salaires de 2 mois. On écoute Jonathan Edongo, joint par Florence Kiza.
Je viens dénoncer la perte de salaire du mois d'octobre des enseignants du territoire de Kibombo. Pourquoi je dis que la perte du salaire du mois d'octobre? L'IFO de la banque qui vire l'argent dans les comptes de la Caritas nous a précisé qu'il a déjà envoyé 2 mois de salaire dans les comptes de Caritas Kasongo et Kindu. Et il y a 4 jours, nous sommes payés. Nous observons que la paie du mois de septembre et non octobre. Nous demandons, la Caritas nous dit, jusque-là, elle n'a pas encore les comptes du mois d'octobre. Nous recourons à l'IFO, l'IFO de nous confirmer qu'il a déjà envoyé. Nous demandons où serait logé l'argent du mois d'octobre pour que nous puissions aller chercher où flottent les salaires des enseignants du mois d'octobre dans le territoire de Kibombo. Le territoire de Kasongwana bénéficiait dès aujourd'hui tous les deux mois septembre et octobre. Quelle que soit la perte de 50 000 dans les comptes du mois d'octobre, cela sera poursuivi après. Nous posons cette question aux autorités tant provinciales que nationales. Les salaires d'octobre restent à quel niveau?
Contactée, la coordinatrice de la Caritas Kibombo appelle ses enseignants au calme car, selon elle, dès demain, la paie du mois d'octobre va commencer.
Actualité internationale.
Après plusieurs tentatives infructueuses au scrutin présidentiel au Kenya, Raila Odinga semble avoir mis une croix sur la fonction suprême dans son pays. Le vétéran de la politique au Kenya vise la présidence de la Commission de l'Union africaine. Il est déjà en pleine campagne alors que les pays membres doivent élire le successeur de Moussa Faki Mahamat en février. À 80 ans, le natif de Masevo va donc se lancer dans ce qui semble être son dernier combat politique. Le chef de l'Église d'Angleterre, leader spirituel de la communion anglicane mondiale, est la cible des pressions pour démissionner après qu'une enquête a révélé qu'il n'avait pas informé la police dès qu'il en avait eu connaissance des abus physiques et sexuels en série commis par un bénévole dans des camps d'été chrétiens. Les appels à démission de M. Welby se sont multipliés depuis jeudi lorsque l'Église a publié les résultats d'une enquête indépendante sur John Smith qui a abusé sexuellement, psychologiquement et physiquement d'une trentaine de garçons et des jeunes hommes au Royaume-Uni et de 85 en Afrique pendant 5 décennies.
L'invité.
Si le plan directeur des transports urbains réalisé par la coopération japonaise n'est pas exécuté, la ville de Kinshasa n'aura jamais des bonnes routes et ne pourra pas résoudre le problème d'embouteillage. C'est ce qu'a affirmé Valérie Madianga, coordonnateur du Centre des recherches et en finances publiques et développement local CREFLED, qui dénonce le financement de 3 millions de dollars pour la construction des routes inexistantes à Kinshasa. Il est invité de ce journal, il s'entretient avec Michel Kifindangoy.
Valérie Madianga, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Le CREFDEL vient de publier un rapport d'enquête sur l'opacité constatée dans la mise en œuvre des projets d'infrastructure routière à Kinshasa notamment. Que pouvons-nous retenir de ce rapport?
Nous avons effectué un contrôle citoyen sur quelques projets d'infrastructure exécutés dans la ville de Kinshasa. Nous avons évalué plus ou moins 27 artères ou avenues de la ville de Kinshasa. Ces projets ont été exécutés soit dans le cadre du programme Zéro Trou, Chile Gelou ou encore des projets connexes. Nous avons relevé que tous ces projets sont exécutés de manière opaque, sans l'autorisation préalable du Parlement, qui est l'autorité budgétaire. Ces projets ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une logique programmatique et ça ne peut permettre de résorber la question des embouteillages à Kinshasa. Ce sont des projets que nous avons jugés deux fois des devis qui sont sous-évalués et certains qui sont surfinancés. Je donne le cas par exemple de l'avenue Masikita où il était prévu qu'on devait l'électrifier. Aujourd'hui, si vous passez, l'avenue Masikita n'a pas d'électricité. L'avenue Chaba également connaît le même sort. Ce sont des travaux inachevés, mal organisés, des collecteurs d'eau non couverts, des routes de très mauvaise qualité qu'on nous offre dans la ville de Kinshasa.
Kinshasa fait actuellement face à des embouteillages monstres alors qu'un plan directeur pour mettre fin aux embouteillages avait déjà été fait par les Japonais. À votre avis, pourquoi le gouvernement n'exécute pas ce plan?
Le plan directeur n'est pas exécuté. Ce plan prévoit au moins un financement annuel autour d'$1 milliard. Pour résorber au moins la question des embouteillages ou la fluidité des circulations dans la ville de Kinshasa. Et vous avez même des scénarios, des nombres de passagers par jour. Donc le plan est très très bien conçu. Mais nous-mêmes, au niveau du CREFDEL, nous sommes étonnés de constater que ce plan, qui a été financé par des bailleurs de fonds, notamment la coopération japonaise, n'a jamais fait l'objet d'une insertion dans un cadre programmatique. Ça veut dire que la budgétisation devait tenir compte de ça. Mais nous avons des routes qu'on réhabilite, qu'on conçoit à Kinshasa, qui ne tiennent pas compte de ces plans. Et c'est ce qui fait en sorte que beaucoup d'argent on décaisse pour la ville de Kinshasa. Et ces fonds ne peuvent en aucun cas servir à ce que l'on puisse construire des routes de qualité. Ça, c'est un grand problème. Si ces plans n'est pas mis en œuvre, nous n'aurons jamais des routes de qualité dans la ville de Kinshasa.
Comment avez-vous évalué la mise en œuvre des projets Kinshasa Zéro Trou et Chile Gelou?
Oui, la mise en œuvre de ces deux projets, je pouvais vous dire que c'est chaotique. Nous avons, par exemple, des tronçons qu'on a inséré dans les deux projets qui n'existent pas. Vous avez par exemple dans la commune de Matete, on a inséré soi-disant l'avenue Tilombo. L'avenue Tilombo n'existe pas, c'est juste un arrêt de bus qu'on utilise au niveau de la commune de Matete. Il y a aussi l'avenue Lunyonzo. Cette avenue n'existe pas, Lunyonzo c'est le nom d'un hôpital. Donc vous voyez déjà les deux projets sont évalués autour de 3 millions de dollars que les trésors publics auraient dû dépenser donc à autre chose, mais c'est passé inaperçu. Et nous avons également regardé l'avenue Chabas. Les collecteurs d'eau ne sont pas de qualité, c'est trop étroit. Les eaux de pluie se déversent sur la chaussée, la route n'a plus une longue durée. Si vous faites encore un autre tour vers l'avenue de l'université, cette avenue a été réhabilitée il y a de cela 2 ans passés. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité de passage et parce que la route a été très mal réhabilitée.
Quels sont les actes de mégestion et à quelle ampleur du problème, jugez-vous la mise en œuvre de ces deux projets?
Oui, les actes de mégestion dans le cadre de ces projets, il y a d'abord l'absence des études préalables. Nous avons relevé que tous les projets proposés par l'OVD ne disposent d'aucune étude préalable. Et c'est ce qui est à la base de plusieurs avenants. Vous avez un projet qui a 5-6 avenants qui viennent surfinancer le projet. Deuxièmement, vous avez le contrôle qualité qui ne se fait pas. Le troisième élément est que les coûts des frais administratifs est très élevé et lorsque nous regardons maintenant la quantité qui va vers les infrastructures, c'est trop faible. Et là, je me pose même des questions. Comment est-ce que ces entrepreneurs parviennent à construire des routes? Et tout ça, ça a un impact sur la qualité des routes et vous avez des collecteurs d'eau qui ne tiennent pas compte des conditions climatiques. Vous avez des routes à usage unique. On réhabilite aujourd'hui, quelques jours après, vous n'avez pas des routes de qualité.
Monsieur Valéry Madianga, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Fidèles auditeurs, nous vous disons aussi merci car c'est la fin de cette édition du journal sur Radio Okapi.